On va reprendre pour le panel de cet après-midi. Après la ville et la campagne ce matin, le second panel jeunes chercheurs de cet après-midi se concentre sur les banlieues. Alors je tiens à préciser que la séparation femmes-hommes n'est absolument pas de notre fait dans la programmation. Je ne sais pas s'il faut l'interpréter, je vous laisse réfléchir et juge sur le sujet. Mais donc après les interventions féminines de ce matin, ce sera des interventions masculines pour ce sujet-là. Je vous présente, j'ai le plaisir de vous présenter Samuel Clac, qui est normalien, qui est doctorant en études cinématographiques en première année à l'université Gustave Eiffel et qui est donc membre associé au laboratoire LISA. Sa thèse de doctorat qu'il mène sous la direction de Diane Arnaud est consacrée aux figures cinématographiques de l'enfance. Et ce travail de recherche articule l'histoire du cinéma, l'analyse esthétique, tout en poursuivant les réflexions initiées par André Bazin sur le mythe de l'innocence et l'enfance sans mythe. Alors aujourd'hui, Samuel a décidé de se focaliser lui aussi sur un film, enfin je dis lui aussi un petit peu comme ce matin, mais ça ne sera pas le cas d'Arthur Pétain après, sur un film de 2001 qui se déroule dans la Cité des Bosquets, qui est située en Seine-Saint-Denis, en l'occurrence « Wesh, wesh, qu'est-ce qui se passe ?» de Rabah Amerzaïmesh. Et il va opérer une analyse comparative avec d'autres films quand même, et ne pas rester uniquement focalisé sur ce dernier. Le titre qu'il a choisi pour sa communication, on doit apparaître derrière moi, je l'imagine. La cité des enfants, les bosquets dans Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe de Rabah Amerzaïmesh. Et je m'en vais pour vous laisser toute visibilité sur le PowerPoint. Samuel, c'est à toi.
Merci et merci aux organisatrices pour cette invitation. J'ai choisi de commencer cette communication sur la cité des bosquets et de Rabah Amerzaïmesh, qui est un film, dans Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe, de Rabah Amerzaïmesh, qui est un film sorti en 2001, en commentant ce plan extrait de la première séquence. Nous y voyons un homme faisant du stop le long d'une petite route de campagne. Alors la suite du film nous donne le contexte. C'est Kamel, le personnage principal du film, qui est joué par Rabah Amerzaïmesh lui-même. De retour en France, après un exil en Algérie, puisqu'il a été frappé par une obligation de quitter le territoire français. Et le personnage rentre dans sa famille qui habite au Bosquet, une cité de la ville de Montfermeil, en banlieue parisienne, où il a grandi. Cette figure de personnage qui revient, pardon, mêlant sa connaissance intime du lieu à la distance engendrée par l'exil est une figure assez classique pour introduire les spectateurs dans l'espace de la fiction et ici plus spécifiquement dans l'espace de la banlieue parisienne. Ce qui l'est moins en revanche, c'est de faire débuter le trajet de ce personnage dans un espace rural. Le plan ne nous indique pas précisément où est Kamel, car la campagne ici est réduite à un signe de ruralité à travers le ciel prépondérant, quelques pavillons et un bout de route. En réalité, la scène a été très probablement tournée tout près des bosquets, quelque part en Seine-et-Marne, où les champs sont assez typiques de la couronne périurbaine de la capitale. On voit sur cette carte que la cité des Bosquets et la ville de Montfermeil, plus généralement, est située à la lisière de l'agglomération parisienne et du tissu urbain de la capitale et touche en fait presque donc touche le parc, enfin touche la forêt de Bondy plus précisément qui donne son nom au Bosquet. Et touche presque ces champs et cet imaginaire un peu plus campagnard. L'originalité d'Amerzaïmesh est donc d'avoir mis au centre de son film cette proximité des bosquets avec le bois et la campagne proche et d'avoir filmé la cité comme un espace presque périurbain, si l'on entend par là un espace à la lisière de la ville et communiquant avec l'espace rural. Dès lors, il importe peu que la campagne au début de Wesh Wesh soit identifiable ou non, car ce qui compte, c'est le rapprochement en soi entre la banlieue et la campagne, le choc entre deux imaginaires soi-disant opposés qu'Amersheimer travaille durant tout le film. L'originalité de ce geste est à mettre en regard avec d'autres représentations des cités et plus particulièrement des bosquets. En effet, Amersheimer se détache des visions extrêmement urbaines de la banlieue qui se sont développées au cinéma. Par exemple, avec dans les années 90 des films comme La haine de Mathieu Kassovitz, 1995, ou ceux de Jean-François Richet, État des lieux, 1995, et Ma cité va craquer. François Richet qui a largement aidé Amersheimer d'ailleurs dans pour faire son film. Mais donc cette vision urbaine est celle qu'on retrouve aussi depuis les années 2000 avec, par exemple, le collectif Courtrage-Mai, auquel appartient le cinéaste Lajli, et qui a produit plus d'une demi-douzaine de courts et longs métrages spécifiquement sur la cité des Bosquets. On doit ces films notamment à Lajli, mais aussi, par exemple, à l'artiste JR. Les deux derniers films sur les Bosquets en date, Les Misérables, 2019, et Bâtiment 5, de 2023, de Lajli, sont les plus connus. Et présentent une banlieue qui est assez différente de celle que l'on verra par la suite dans Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe ? Dans Les Misérables, par exemple, un drone dirigé par le double enfant du cinéaste nommé Buzz, révélait en s'élevant au-dessus des bâtiments le potentiel de beauté d'un quartier au bord de la révolte. Mais dans Bâtiment 5, dont vous avez le premier plan, enfin la première image à l'écran, le constat était plus pessimiste. Tourné après la destruction de la dernière barre des Bosquets, destruction réelle, je veux dire, et la dispersion des familles qui habitaient le quartier. Donc oui, ce constat est assez différent de celui des Misérables. Le film commence par un long travelling avant au drone sur une barre d'immeubles perdue dans l'océan de béton de la banlieue parisienne. Ce mouvement de caméra est comme la poursuite de celui du drone de Buzz, mais dans un monde qui a perdu ses couleurs et qui a presque complètement viré au cauchemar. Cette image incarne la représentation qu'on pourrait dire dominante des cités de la banlieue parisienne, c'est-à-dire une continuité urbaine, bétonnée, grise et triste, vision qui est pour beaucoup dans la destruction par les pouvoirs publics de ces cités considérées comme des ghettos. Pardon. Dans ce plan, on ne voit pas le bois des Bosquets, ça c'est un petit parc municipal, et le bois de Bondy est relégué hors champ, ce qui souligne encore l'originalité d'Amersheimer. Et dans Wesh Wesh, la forêt de Bondy est si importante qu'elle constitue comme le cœur battant de la cité. Et donc c'est à ça que je vais m'intéresser pendant cette communication. Le résultat de ce geste d'Amersheimer est une cartographie extrêmement sensible des Bosquets. Cette idée de cartographie sensible, je l'emprunte au théoricien du cinéma Vincent Amiel, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Le cinéma français, une cartographie, et où il décrit, entre autres, la démarche d'Amersheimer comme étant celle d'une cartographie sensible. En effet, Amersheimer est sans cesse attentif aux différents lieux qui composent la cité, espaces privés, espaces publics, espaces familiaux, institutionnels, de jeu, de travail ou d'attente. Cependant, on ne trouve jamais de carte du quartier ou même de mise à plat du territoire depuis un point de vue qui nous permettrait de visualiser la place de chacune de ces parties. L'exploration des Bosquets se fonde plutôt sur des principes sensibles, c'est-à-dire sur l'émergence d'une émotion dans un lieu ou sur les rapports de rythme et d'affect entre les différents espaces. Mon hypothèse est que cette cartographie sensible, repose sur deux éléments indissociables. Premièrement, elle repose d'abord sur une circulation figurative et affective entre les deux composantes des bosquets, que sont les barres d'immeubles et la forêt proche. Et en ce sens, je ne crois pas qu'il y ait de séparation radicale entre ces deux espaces, pas de locus terribilis de la cité opposée à ce qui serait un locus amoenus du bois, mais plutôt une forêt qui constitue le cœur battant d'un lieu. Deuxièmement, cette vision des bosquets repose à son tour sur l'adoption, à plusieurs moments du film, d'un point de vue enfantin. D'une part, la figuration de la cité est adossée à des souvenirs d'enfance, ceux d'Amers Aimèche, qui a lui-même grandi au bosquet, comme son personnage. Et d'autre part, la circulation dans le film, est assurée par des figures d'enfants, qui sont les relais entre les différents espaces et qui sont comme les passeurs qui permettent de passer d'un espace à un autre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner pour titre à cette communication la cité des enfants, car la cité des bosquets est décrite par un enfant. Donc dans une des composantes de la cartographie sensible développée par Amers Aimèche dans Wesh Wesh est une certaine hybridation entre ville et campagne. Et c'est celle-là à laquelle je vais m'intéresser maintenant en prenant au sérieux d'une certaine façon le nom même des bosquets qui articule ces deux éléments. Donc cette hybridation entre ville et campagne est en partie justifiée par la situation géographique de la cité, à la lisière du tissu urbain, et l'attachement du cinéaste à son expérience d'une cité périurbaine, mais aussi à la campagne en général. Sa famille d'Algérie est originaire de la campagne et c'est quelque chose qu'il travaille aussi. Mais à cet aspect qu'on pourrait qualifier de documentaire, et par certains aspects, le film se rapproche d'une esthétique documentaire, sans en être un, s'ajoute cependant une autre dimension, autrement plus magique, je dirais. En effet, j'avancerai l'idée qu'Amers Aimèche est attaché à la puissance évocatrice même du nom des bosquets. Et cette démarche est loin d'être solitaire, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs films de banlieue. Par exemple, dans un film plus récent, Gagarine, sorti en 2021, les réalisateurs Fanny Liattard et Jérémy Trouille ont même fondé l'essentiel de leur film sur ce rapprochement entre le nom d'une cité d'Ivry-sur-Seine vouée à la destruction et les promesses astrales, on va dire, du célèbre cosmonaute. Cette importance donnée au pouvoir évocateur des mots peut être rapprochée de l'imagination enfantine. Et en littérature, par exemple, Marcel Proust a consacré une partie entière du côté de chez Swann au monde entier contenu pour le jeune narrateur dans les noms de Balbec, Venise et Florence. Et lui, il l'appelait nom de pays et d'une certaine façon, les bosquets est le nom de cité qui informe l'esthétique du cinéaste. Dans le cas d'Amers Aimèche, le nom des bosquets, mais aussi du Bois du Temple, une banlieue proche de la première et qui donne son nom à son dernier film, sorti en 2023, ces noms sont autant de puissants réservoirs de fiction et de forme. En outre, le cinéaste insiste régulièrement sur le fait que son expérience de la cité, étant enfant, a constitué une source d'inspiration majeure pour ses films. Et la façon dont il décrit les bosquets est significative. Dans un entretien donné au Cahier du cinéma à l'occasion de la sortie de son dernier film Le Gang des Bois du Temple, il évoque ainsi son enfance jugée merveilleuse. Et je cite « On construisait des cabanes dans le bois tout proche. Le soir, on montait dans le séchoir pour regarder la ville scintiller comme un navire qui aurait rompu les amarres. » Plus loin, parlant du trajet qu'il faisait souvent pour aller jouer au parc de jeux de la cité voisine des Bois du Temple, je cite à nouveau, sur le chemin, il y avait une chapelle construite sur une source prétendument miraculeuse, avec trois croix élevées à proximité. Selon la légende, des pèlerins s'étaient fait ligoter et dévaliser par des bandits à cet endroit, avant qu'un ange ne les délivre. Cette histoire est restée au fond de moi et s'est mélangée à plusieurs films. Ainsi, du point de vue de l'enfance, l'expérience intime des Bosquets est merveilleuse, à la fois heureuse et potentiellement magique. Amurzaimèche s'attache alors à déplier, grâce au recours des métaphores et de la légende, les promesses de nature contenues dans le nom de la cité. C'est le cas, par exemple, de la première séquence du film, qui associe par le montage un souvenir d'enfance heureuse à une image de la cité faite de pelouse, de ciel bleu et d'une route de campagne, autant d'éléments qui n'appartiennent pas de facto au quartier des Bosquets, mais qui construisent un espace filmique. Donc, je vais vous montrer le premier extrait. Ok. Donc, bon, on ne l'a pas entendu, mais avant que la musique ne commence, on entend des... assez faiblement, des sons d'enfants qui sont en train de jouer et qu'on retrouvera à la toute fin du film, en fait. Ça fait une espèce de boucle. La séquence apparaît comme un programme esthétique qui fait mine de proposer des signes distinctifs de la banlieue, supposés connus des spectateurs, comme par exemple les barres d'immeubles, les jeunes hommes d'origine maghrébine, même s'ils ne le sont pas tous, le rap, le foot, le pitbull... Mais la séquence développe en même temps un certain nombre de pas de côté propres à déjouer les attentes du public. On passe ainsi de bruits d'enfants, que l'on ne verra jamais à l'écran, à un plan d'exposition classique sur une barre d'immeuble, puis de ce plan d'ensemble à un plan resserré sur un pitbull et à un gros plan sur le visage de Kamel entouré par le ciel. Il y a ainsi quatre séries de plans qui ne s'inscrivent pas dans une continuité géographique stricte, puisqu'ils appartiennent à des espaces plus ou moins éloignés sur le plan spatial et aussi sur le plan des représentations. L'éclatement de la séquence, qui est souligné par les crédits du générique, intercalé entre les plans, est davantage appuyé par l'abstraction de ces diverses séries. Le plan du pitbull, mais surtout celui du visage de Kamel, ne sont inscrits dans un contexte, que ce soit la partie de foot ou la route de campagne, qu'au bout de quelques plans. Cette reconstruction fictionnelle vise ainsi moins à rendre lisible le lieu de la cité qu'à restituer les bribes d'une expérience subjective du lieu sur le mode du souvenir. Ce rapport est rendu explicite par les premiers mots parlés de la musique. Je me rappelle quand on était gamin, dans le quartier, on souriait tous. Et puis en grandissant, je pense souvent à ceux qui ont disparu, qui sont partis, ils auraient dû grandir comme nous. La séquence amalgame différentes étapes de la vie à travers différents points de vue sur la cité, les enfants, les jeunes hommes à peine majeurs, l'exilé dans sa trentaine qui revient. Il s'agit de restituer une certaine expérience, qui est ici masculine, des Bosquets, essentiellement heureuse, bien qu'elle ne soit pas dépourvue de mélancolie. Or, si elle est à la fois heureuse et mélancolique, c'est parce qu'elle est intimement liée à l'enfance, seule période à avoir été vécue par les trois groupes de personnages visibles et ou audibles. Ce rapport intime entre la cité et la forêt se retrouve dans le détail de nombreux plans qui floutent la frontière figurative entre les lieux. Je me contenterai de deux exemples. Le premier exemple est quand Kamel arrive véritablement au Bosquet à la fin de la première séquence, et donc c'est les deux plans du haut, les deux photogrammes du haut, je veux dire. Les immeubles sont filmés comme des gros champignons qui s'élèvent de façon parsemée derrière les arbres, qui prennent l'essentiel de l'image. Donc avec une espèce d'inversion entre la place des arbres et la place des immeubles. Quant à son visage, il est filmé une nouvelle fois en gros plan, ce qui permet d'abstraire le contexte urbain. Seuls les arbres sont visibles, manière encore de signifier, il est bien dans la cité, mais cette cité n'est en rien réductible à une continuité bétonnée. Au contraire, la végétation est presque omniprésente. Le deuxième exemple, donc en bas, est un panoramique qui passe d'une voiture sur une route entourée par des arbres et qui, progressivement, par le mouvement de la caméra, révèle le contexte, c'est-à-dire que les arbres sont ceux du parking d'un ensemble d'immeubles des Bosquets. Pourtant, pendant quelques secondes, on aurait presque cru à une petite route de campagne. Ces allers-retours retour répété entre le bâti et la végétation, tantôt dans une logique d'intégration, tantôt au contraire dans une logique d'abstraction, représente la banlieue des Bosquets comme un espace hybride qui oscille entre la ville et la campagne proche. Et c'est l'originalité assez radicale d'Amurzaimèche, puisque il est vrai que les banlieues ont dès le départ été pensées par les urbanistes qui les ont construites comme des espaces assez verts, avec une densité de bâtiments finalement moins importante que dans les espaces centraux des villes. Mais Meshe radicalise cette conception urbanistique en nourrissant dans la matière, enfin dans le détail de chaque plan, enfin peut-être pas de chaque plan, mais de nombreux plans, la cité des Bosquets de cet imaginaire rural. Par l'intermédiaire du souvenir d'enfance, il s'agit alors constamment de déplacer le regard et de remotiver les rapports entre les différentes composantes d'un lieu. La mise en scène du film peut être envisagée comme un déploiement de stratégies figuratives visant à éviter de figer l'image de la cité. Et à contrario d'une logique qui voudrait assimiler la cité à quelques signes distinctifs, Meshe s'attache à multiplier les pas de côté vers la nature, vers une dimension métaphorique, en créant aussi des parallèles avec le conte, et en tout cas à présenter les Bosquets comme un ensemble hétérogène et poétique. Cette poésie et cette dimension de conte est la plus visible dans une scène centrale du film où Kamel et trois garçons récurrents de Wesh Wesh, qui s'appellent Amir, Bilal et Nourdine, vont pêcher dans l'étang du bois de Bondy. Et c'est notre deuxième extrait. Donc avec cette scène, je passe à ma deuxième partie, qui est une excursion dans les bois, et ses logiques de transgression, d'installation et de circulation. Le moment dans la forêt, qui est composé de quatre plans, est en réalité très court, à peine plus d'une minute. Il n'en fallait pas plus, cependant, à Meshe, pour créer un espace de liberté dans cette cité, et un moment très, très fort qui ne cesse d'informer le reste du film. Cet espace est géographiquement dans la continuité des barres d'immeubles, auxquels il donne son nom des Bosquets, mais c'est figurativement une rupture radicale qui est matérialisée par la barrière franchie par les personnages. Celle-ci marque aussi bien que le No Trespassing de Citizen Kane de Wells, un seuil fictionnel assurant la transition entre l'espace de la cité et marqué par un regard qu'on pourrait qualifier de quasi-documentaire, à un lieu à la poésie bien assumée, presque un espace de conte. Les quatre personnages sont comme des passeurs qui traversent sans peine différents espaces, différents niveaux de réalité, et la musique, qui commence au moment où la barrière est franchie, souligne encore la particularité du lieu. Pour la musique, c'est plus précisément Naïma de John Coltrane, qui constitue ici un moment de jazz aussi libre que la course éperdue des corps qui s'élancent joyeusement vers l'étang. La ville, de nouveau, s'ouvre à la campagne à travers la figuration du bois, mais surtout celle de la pêche, activité de loisirs typiquement rurale. Et déjà au début d'une partie de campagne de Jean Renoir, le jeune garçon pêchant depuis un pont dans l'eau d'une rivière signifiait que la famille bourgeoise cherchant un face-à-face avec la nature, comme l'indique le carton, était bel et bien arrivée en zone rurale. Ce face-à-face était, donc l'idée d'un face-à-face, donc de mise presque en confrontation, était d'ailleurs redoublée par le montage, puisqu'un premier temps faisait mine d'immerger le spectateur dans la nature, pardon, avec au générique un plan suivant le cours de l'eau, puis un deuxième montrant un enfant penché au-dessus de la rivière. Cependant, le spectateur découvrait très vite l'envers du décor, et puisque le pont sur lequel est juché l'enfant fait passer une route et la voiture d'une famille bourgeoise goguenarde. Dans Wesh Wesh, au contraire, la scène de pêche n'est pas l'occasion d'un face-à-face, mais d'une installation dans la nature, sans aucune ironie de la mise en scène. Cette installation dans la nature n'est pas sans rappeler un autre cinéaste qui a lui aussi filmé deux célèbres scènes de pêche. Et donc je pense à Ozu et à son film Il était un père, qui date de 1941. Et si Meshe n'a à ma connaissance jamais mentionné Ozu, son le bob qu'il arbore constamment enfin que le personnage de Kamel aborde constamment est quand même très semblable à celui du maître japonais. Et je vais vous montrer un extrait de Il était un père, donc la scène de pêche, où un père veuf annonce à son fils qu'ils doivent se séparer. Donc, la scène d'Ozu et celle d'Amour Zamesh me semblent fonctionner un peu en miroir. L'une comme l'autre accordent deux rythmes, celui de la nature avec celui des hommes. Chez Ozu, la trouvaille géniale est ces personnages accordent dans un premier temps leur mouvement à la fois avec le cours de la rivière, mais aussi entre eux, le père avec le fils. Cette harmonie est plus largement symbolisée par les éléments architecturaux qui encadrent la séquence et inscrivent cette scène intime dans un temps plus long d'harmonie entre les hommes, entre le temps des hommes et celui de la nature. Pourtant, lorsque le fils apprend qu'il doit quitter son père, et c'est donc ce deuxième extrait, arrête son geste tandis que son père continue de lancer sa ligne, l'harmonie entre eux et avec la nature est brisée. Il leur faudra du temps pour la retrouver avant que, dans une scène ultérieure, le fils, désormais adulte, ne retourne pêcher avec son père. Chez Amour Zamesh, on retrouve cette même synchronisation entre le rythme de ses personnages et celui de la nature, autour de la pêche. Au contraire d'Ozu, cependant, cette harmonie n'est jamais véritablement brisée, car plus tard dans le film, après que Kamel et la professeure avec qui il a une aventure se sont disputés, c'est auprès de l'étang et pendant une partie de pêche qu'ils se réconcilient. Et on s'est pu montrer, c'est ce moment-là que vous voyez à gauche. Le moment de pêche, aboutissement de la séquence, manifeste à la fois l'insouciance et le contentement du jeu. Parce qu'elle constitue un moyen terme entre l'inertie et l'activité, l'ennui et l'attention d'un corps sensible à soi, à la nature et au temps, la pêche condense affect, rythme et énergie de la séquence. Le mouvement, qui est souvent proche de l'arrêt dans le film, se perpétue dans les gestes infimes de la pêche, les légers remous de l'eau et le lent des zooms de la caméra. La pêche incarne ainsi cette activité caractérisée à la fois par un état proche de l'inaction et au contraire par une attention extrême à des micro-mouvements. Ce faisant, l'alternance entre activité et passivité qui caractérisait l'espace de la cité se voit dépassée. J'irai même plus loin en comparant la séquence avec une analyse qu'on trouve chez Hegel des petits mendiants de Murillo, qui est un peintre espagnol, et dont je vous ai mis deux exemples ici, mais là, c'est une série assez importante. Et Hegel écrit dans ses cours d'esthétique à propos de ses enfants, je cite, « On voit qu'ils n'ont pas d'intérêt ni de fin plus vaste et que pourtant ce n'est pas par hébétude qu'ils sont accroupis sur le sol, mais par une satisfaction et une béatitude presque semblables à celle des dieux olympiens. » Fin de citation. Et bon, un autre philosophe, Jacques Rancière, qui commente cette analyse dans Aesthésis, rappelle que la conception de la liberté et du bonheur des penseurs du 19e siècle est inspirée par les Grecs et leur conception de l'oisiveté en tant que suspension du souci et de la volonté, et aussi en tant que désir de ne rien dire et de ne rien faire, qui constituerait un peu le bonheur et la liberté. Le jeu est dès lors, en tant qu'activité qui suspend cette opposition entre l'actif et le passif, c'est l'occupation libre et heureuse par excellence. Dès lors, comme les enfants de Murillo, les personnages d'Amour Zamesh peuvent être dits libres car ils sont oisifs, et le temps d'une scène, l'ennui laisse place à la jouissance d'une occupation mi-active, mi-passive, à un sentiment de béatitude. Et s'ils sont dits bien heureux, rajoute Rancière, c'est qu'ils ne connaissent pas la séparation qui les assignerait à une place sociologiquement déterminée et qui motiverait une représentation particulière. Les enfants apparaissent alors comme des petits dieux de la cité, et je reprends ici la formule de Rancière qui parle, à propos de ceux de Murillo, de petits dieux de la rue. Cet état de béatitude n'est pas confiné à ce lieu de rêve ou de conte qu'est le bois. Au contraire, il vient informer la cité tout entière. Le mouvement et le rythme particulier de la scène, sa respiration et son intensité, circulent entre les différents espaces et se transmettent d'un plan à l'autre, de l'étang à une barre d'immeuble où zonent quelques jeunes et enfants. La continuité est assurée par la musique, qui se poursuit pendant presque une minute, soit presque aussi longtemps que la scène du parc proprement dite. Et par le dézoom qui se font en panoramique à l'épaule. Le procédé dans le film est presque systématique. Il n'y a jamais de rupture radicale entre la fin des quelques séquences dans le bois et les plans d'immeubles qui suivent inévitablement. Il s'agit à chaque fois de déplacer le regard, de le charger en poésie, pour revenir filmer des moments de vie de la banlieue dans une perspective qui touche au documentaire. Amor Zaimesh met en scène une expérience de déplacement, des corps, du regard, par rapport à la représentation dominante, un bouleversement à la fois des clichés sur la banlieue et sur le banlieusard. La mise en scène s'appuie dès lors sur la transgression figurative, enfin, transgression à la fois spatiale de la barrière et figurative, qui est la juxtaposition de deux espaces aussi opposés dans les représentations communes, et deuxièmement sur une installation dans le plan et dans l'espace, et dans la nature, et troisièmement, une circulation des rythmes et des affects entre les lieux. Je ne sais pas combien de temps il me... Ok. Bon, j'ai... Ok, bon, ça ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Donc, je dirais quand même quelques mots de ce que j'appellerais le vitalisme d'Amor Zaimesh, puisque ces déplacements continuels dans l'ordre de la figuration font écho dans le film à un certain vitalisme qui est fondé sur le mouvement des corps. Et j'entends par là que le film met en tension deux espaces, entre autres, qui seraient l'un l'espace des escaliers et l'autre l'espace du bois, et qu'on circulerait de l'un à l'autre. C'est les deux un peu espaces centraux du film. Ces escaliers, ils seraient marqués par une forme d'inertie, ou en tout cas par le passage constant de l'inertie au mouvement et du mouvement à une forme d'arrêt. Et cette tendance à l'immobilité est notamment incarnée par le groupe de ces jeunes hommes qui ne cessent de rester sur les escaliers à ne rien faire et qui même envoient les enfants aller leur chercher des boissons. Donc bon, ils donnent aux autres la tâche de bouger. Alors que les enfants et Kamel, mais souvent les enfants et Kamel sont filmés un peu comme un groupe où il y aurait quatre variations autour de la même figure et ils font à peu près la même chose. Eux, ils incarnent constamment le passage du mouvement au non-mouvement et inversement. Par exemple, Kamel, on le voit toujours, typiquement dans le film, il descend les escaliers 4 à 4, il s'assoit, puis après il repart en sautant par-dessus des barrières, et donc une espèce de dépense d'énergie comme ça. Et les enfants, c'est pas de la même façon. Dans la séquence qui précède juste celle qu'on a vue dans la forêt, ils descendent les escaliers, ils descendent le toboggan, remontent 4 à 4, redescendent et finalement, épuisés, ils finissent par s'arrêter. Pourtant, dès qu'ils s'arrêtent, ils se disent « bon voilà, il faut qu'on fasse autre chose ». Donc on va demander à Kamel, lui aussi il a l'air de s'ennuyer, on va aller dans les bois. Le mouvement dès lors est dans le film un enjeu proprement vital, car pour tromper l'ennui, les jeunes, par exemple, jouent au foot, au golf ou à être des caïds. Kamel passe d'un espace à l'autre et d'un groupe à l'autre, c'est-à-dire des femmes aux hommes, des hommes aux enfants. Il cherche du travail et s'active sans cesse, quitte à tourner en rond. Et quant aux enfants, ils s'exercent constamment au Tao, qui sont ces katas du Kung-Fu. Et si toute activité, même le jeu, est un peu marqué par le risque de l'arrêt, les enfants, et Kamel un peu entraîné par les enfants, ne cessent de chercher d'autres moyens de relancer le mouvement et de relancer le jeu. S'organise dès lors une dialectique entre les escaliers, centre de gravitation de l'espace des bâtiments, lieu de passage, de sociabilité, mais où subsiste la tentation de l'arrêt, et la forêt proche, qui est le lieu de jeu, de légende, où on vient se ressourcer et qui résiste un peu à l'inertie. Elle apparaît même dans la dernière séquence comme une protection possible contre la mort. Je pense que j'ai pas le temps de mettre l'extrait, mais bon, pour résumer, Kamel, poursuivi par des policiers, se réfugie dans les bois et court éperdument pour échapper à la mort. Et celle-ci est laissée en suspens, puisque l'on n'entend qu'un coup de feu. Et parce que Kamel aussi réapparaît dans un autre film de Damer's Image, Blade No. 1, qui pourrait se passer après. Et ce qui est intéressant, c'est que de la forêt, il y a une espèce de transition musicale entre la forêt, une espèce de caresse sur des immeubles, de la façade d'un immeuble, et le film suivant qui commence par la même musique et par le même mouvement. Donc il y a une espèce de mouvement qui se perpétue à travers les espaces. Je pense que on en a un peu parlé déjà du jardin, je voulais juste comparer le bois, l'importance du bois chez Hammer's Image à un autre personnage d'enfant dans un film de Romère, L'arbre, le maire et la médiathèque, où cet enfant à la campagne, donc dans un autre imaginaire, dit que ce qui lui manque à elle, son espace des possibles, ce serait pas le bois, ce serait pas les champs qui sont des espaces d'activité économique, mais un jardin. Les perspectives sont inversées. Chez Hammer's Image, le questionnement autour de ce bois, de la place de la nature dans des sociétés humaines périurbaines, a une portée politique. Son art du montage juxtapose des espaces a priori hétérogènes de la cité et de la forêt pour former un lieu intégrant à la fois le béton et l'étang proche. La forêt. Il fallait cependant une scène où cette oisiveté devenait, où l'oisiveté des garçons devenait béatitude pour régénérer figurativement la cité. Et le vitalisme qui traverse le trio, le quatuor formé par enfant et ce grand enfant qui est Kamel, informe la cité tout entière et la métamorphose de l'endroit subi, il n'y a nulle part où aller, en lieu de vie commune. Cette transfiguration est politique. Il y a chez Hammer's Image comme chez Rancière l'idée que le commun se fait à partir d'un pas de côté, de matériaux hétérogènes qui décident le regard, déplacent l'action et inventent ici et maintenant des formes du commun en écart par rapport aux formes dominantes. Et contrairement à d'autres d'ailleurs, mais aussi peut-être parce qu'il appartient à une autre génération, qu'il n'a pas exactement la même expérience de ceux qui ont habité plus tard dans les bosquets, Hammer's Image a toujours été très critique de cette, sa vision du bois s'inscrit aussi dans une, pour essayer de démonter un petit peu un discours qui voudrait faire des cités, un espèce de ghetto de béton et qu'il faudrait par là détruire. Et Hammer's Image, au contraire, est assez attaché aux sociabilités et à ses espaces. Voilà. Merci.
Communication, en tout cas, votre analyse était très éclairante pour mieux cerner tous ces enjeux poétiques, politiques de Wesh Wesh, entre autres, puisque du coup, on a eu beaucoup de pas de côté durant cette communication. Alors, c'est Arthur Pétain à présent. Je laisse s'installer, que je commence donc à présenter, qui était doctorant au moment de la présentation de la proposition de son intervention et qui est donc à présent docteur depuis le mois de décembre. Alors encore une fois, toutes nos félicitations, cher Arthur. Arthur est agrégé de lettres modernes, ancien élève de l'ENS Ulm, et il vient donc de terminer sa thèse, dont je vous livre le titre exact, « Écrire les espaces périurbains, une géographie contemporaine dans la littérature française », une thèse présentée à l'université Grenoble-Alpes sous la direction de Laurent Demange. 2014. Alors Arthur est actuellement ingénieur de recherche à l'université Gustave Eiffel en charge du programme de ce programme Urban Nature 2 jusqu'en 2016. Il a tout de suite voulu participer à cette journée d'études avec un enthousiasme débordant parce que pour tout vous avouer, pendant qu'il s'installe, il nous a proposé initialement une dizaine de films qu'il voulait appréhender en 30 minutes. Donc on a tout de suite avec Diane essayé un peu de freiner cet enthousiasme. Il avait décidé de se focaliser sur 4 films, mais tout à l'heure, il m'a avoué qu'il avait encore réduit son corpus à 2 films essentiellement, même si je crois qu'il y aura des pas de côté. Et ça nous paraît effectivement tout à fait raisonnable. L'idée d'Arthur, je crois, est de nous montrer comment le cinéma français contemporain, dès lors qu'il s'attache à ancrer des fictions dans des zones pavillonnaires périurbaines, travaille en fait à creuser le lien ambivalent qu'entretiennent les pavillonnaires à la nature. Et le titre qu'il a choisi pour sa communication, s'il est resté le même, est « Nature et zone pavillonnaire dans le cinéma français contemporain entre espaces verts domestiqués et puissance d'ensauvagement ». Donc Arthur, c'est à toi.
Donc je voudrais tout d'abord remercier une nouvelle fois Carole Rouet et Diane Arnaud pour avoir organisé cette journée d'études donc et m'y avoir très gentiment invité alors même que le cinéma n'était pas a priori mon domaine d'études. Dans le cadre de cette journée donc sur l'éco-poétique de la vie périurbaine au cinéma, j'aimerais pour ma part m'intéresser aux zones pavillonnaires dans le cinéma français contemporain et plus précisément à la place et au rôle donné à la nature dans la représentation de ces espaces interstitiels justement situés entre la ville et la campagne. Ces banlieues pavillonnaires, qui apparaissent sur le territoire français à partir de la fin des années 60, sont d'abord associées en France à un imaginaire américain, diffusé notamment via des séries télévisées et le cinéma. Et on pense, pour citer des exemples très connus, à la série Desperate Housewives, à des films comme Édouard Romain d'Argent de Tim Burton, American Beauty de Sam Mendes, ou encore Little Children de Todd Field. Mais le cinéma français s'est lui aussi intéressé au périurbain hexagonal, de sorte que le corpus des films français ancrés dans des lotissements pavillonnaires recouvre déjà une certaine ampleur. Depuis Fred, de Pierre Jolivet, sorti en 97, dont vous voyez ici un photogramme, au dernier film d'André Téchiné, Les gens d'à côté, sorti en 2024, en passant par Je vais bien, ne t'en fais pas, de Philippe Lioret, 2006, adapté du premier roman d'Olivier Adam, Dans la maison, de François Ozon, en 2012, ou encore Effacer l'historique, de Benoît Delépine et Gustave Kervern, en 2020. Si le cadre naturel est présent dans ces films, hein, on le voit notamment avec l'affiche de Dans la maison, il y revêt un aspect relativement mineur, faisant figure de simple décor, de toile de fond. J'ai donc choisi de me concentrer sur 2 œuvres dans lesquelles l'environnement naturel qui préside à l'habité pavillonnaire occupe là une place centrale. Il s'agit de La vie domestique d'Isabelle Tchaïka, sortie en octobre 2013, et En attendant la nuit de Céline Rouzet, sortie l'année dernière en juin 2024. Alors, la proximité avec la nature constitue, en fait, l'un des aspects structurants du mode d'habiter pavillonnaire. Comme l'ont noté de nombreux sociologues sur ces questions, l'attrait pour un environnement naturel au quotidien est très souvent à la source du choix résidentiel effectué par les ménages qui s'installent dans le périurbain pavillonnaire. Mais le lien qu'entretiennent les résidents pavillonnaires à la nature est pour le moins ambivalent. La nature est plébiscitée comme cadre de vie, elle est investie avec force, notamment dans le rapport au jardin, mais elle est surtout appréciée en tant que paysage figé, pour reprendre là la formule de Mathieu Gatto et Hervé Marchal. La nature apparaît essentiellement comme un environnement maîtrisé, dépourvu de nuisances, dans un modèle, le mode de vie pavillonnaire, par ailleurs, très normalisé, très formalisé, pardon, et normatif. Je souhaiterais donc voir, à travers l'étude de ces 2 films, comment le cinéma français contemporain, dès lors qu'il s'attache à ancrer des fictions dans des zones pavillonnaires, travaille précisément à creuser ce rapport ambivalent à la nature propre à la vie périurbaine, qui en fait à la fois un élément structurel et en même temps la réduit à une image très aseptisée. Donc en étudiant la place centrale donnée à la nature dans ces 2 films, je me demanderais notamment en quoi transformer l'environnement naturel périurbain en matériaux cinématographiques permet au cinéaste d'interroger le mode de vie pavillonnaire sous un angle critique. Et je dirais qu'une même tension est à l'œuvre dans ces 2 films, entre d'une part l'exploration des aménités offertes par un cadre naturel très maîtrisé, une nature anthropisée, et la transformation de cet environnement naturel en lieu potentiellement dangereux, mais qui apparaît aussi comme possible levier d'émancipation, notamment vis-à-vis d'un modèle pavillonnaire fortement coercitif, pardon, d'où le titre de cette communication, entre espaces verts domestiqués et puissance d'ensauvagement. Alors, en parlant d'ensauvagement, je précise que je ne m'inscris absolument pas dans l'utilisation qui a été faite de ce terme, notamment par l'extrême droite autour des années 2020, face à la supposée hausse des faits de violence dans la société française. J'emploie ici la notion d'ensauvagement, à la fois pour qualifier les usagers de cette nature pavillonnaire représentée dans les deux films, poussée, on va le voir, à un devenir sauvage, à une sauvagerie qu'il a à entendre à la fois comme férocité, violence, mais aussi mise à bas de l'ordre social. La notion d'ensauvagement se rapporte également à la nature elle-même. Elle est liée à ce qu'on appelle en écologie les pratiques de ré-ensauvagement dans la gestion des espaces naturels, donc c'est rewilding en anglais, pratique qui vise à restaurer la capacité d'accueil de la biodiversité des écosystèmes en favorisant l'expression des processus écologiques spontanés. Je résume là à très grands traits. Voilà, mais avant d'en venir donc à cette nature pavillonnaire, présentons brièvement les deux films. Donc, La vie domestique d'Isabelle Tchaïka, qui est sorti en 2013. Il s'agit du troisième film de la cinéaste après deux longs métrages, déjà situés en partie dans la banlieue pavillonnaire francilienne. Le film est adapté d'un roman de l'autrice canadienne Rachel Cusk, Arlington Park, paru en 2007, roman qui narre le quotidien de plusieurs habitants d'une banlieue résidentielle de Londres, qui justement s'appelle Arlington Park. Comme le roman de Rachel Cusk, le film d'Isabelle Tchaïka se déroule sur une seule journée, mais il est situé dans une banlieue pavillonnaire cossue de l'Île-de-France. On suit 24 heures de la vie d'une femme, Juliette, interprétée par Emmanuelle De Vos, qu'on voit ici sur l'affiche. On comprend qu'elle a récemment emménagé dans cette banlieue résidentielle du fait du travail de son mari. Elle est mère de deux jeunes enfants, qu'on voit également sur cette affiche. Ancienne enseignante, elle est depuis quelque temps déjà mère au foyer, statut qu'elle aspire à quitter. Elle cherche du travail dans l'édition. Et durant ces 24 heures, le film entremêle son quotidien à celui de trois autres femmes habitantes de plus longue date de cette banlieue, toutes trois mères au foyer et que Juliette est amenée à côtoyer au cours de cette journée. Isabelle Tchaïka s'attache à suivre ces femmes dans leur quotidienneté domestique, entre les enfants à emmener, à récupérer à l'école, les multiples tâches ménagères, mais aussi une réunion Nespresso, une virée shopping au centre commercial ou pour Juliette, la préparation du dîner qu'elle et son mari organisent le soir même. En plus de cette attention portée à la vie matérielle, pour reprendre la formule de Marguerite Duras, il y a en toile de fond la disparition d'une petite fille du quartier, évoqué d'abord à travers des alertes enlèvement diffusées à la radio très tôt dans le film, ce qui instille d'emblée un fond inquiétant, une violence souterraine dans ce quotidien pavillonnaire apparemment tranquille et policé. Et Isabelle Tchaïka s'attache à filmer le quotidien domestique de ces quatre mères au foyer de la petite bourgeoisie dans cet environnement de banlieue pavillonnaire. Mais la cinéaste choisit de faire du jardin public l'espace central de cette banlieue. Et on va le voir, les plans du parc n'ont de cesse de revenir dans le film, ce qui crée une scansion qui organise le déroulement de cette journée et en même temps transforme le parc en point nodal du film, là où dans le roman de Rachel Cusk, en fait, le jardin public n'apparaissait que dans un seul des chapitres du livre. Voilà pour La vie domestique. En attendant la nuit de Céline Rouzet, donc il est sorti plus de 10 ans après La vie domestique, hein, en 2024. Il s'agit là du premier film de fiction de cette réalisatrice, après un documentaire ayant a priori peu de rapport, situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il s'agit d'un film d'auteur fantastique, on peut dire, car son héros, Philémon, interprété par Mathias Le Gouhamon, qu'on voit sur l'affiche, est en fait un jeune vampire. Après une ouverture sur la naissance de Philémon, durant lequel ses parents, interprétés par Élodie Bouchet et Jean-Charles Clichet, découvrent ahuris que leur fils, qui ne sait que mordre le sein de sa mère, a en fait besoin de sang humain pour se nourrir, le film a lieu 17 ans plus tard, dans les années 90. On suit l'emménagement de la famille Ferral, le nom est déjà tout un programme, les parents, Philémon, maintenant jeune homme, et sa petite sœur Lucie, donc dans une banlieue pavillonnaire tranquille. Alors que jusque-là, on comprend que c'est la mère qui avait continué à nourrir exclusivement son fils par transfusion sanguine, elle a trouvé là une place en tant qu'infirmière dans un centre de don du sang et qui va donc lui permettre de voler des poches de sang pour nourrir Philémon. La famille tente donc de s'intégrer en ayant l'air le plus normal possible, mais Philémon va tomber amoureux de la jeune Camille, interprétée par Céleste Brunkel, qu'on voit également, attirée par le mystère de ce jeune homme pâle qui fuit constamment le soleil. Et alors que Philémon va être amené à goûter pour la première fois du sang humain, son envie désespérée de se faire intégrer au groupe de jeunes qui habitent la commune va entrer en conflit avec son désir et surtout la soif de sang qu'il a de plus en plus de mal à réfréner, ce qui met en péril non seulement la vie de la famille dans cet endroit, mais sa propre place au sein de la cellule familiale. Là encore, la nature joue un rôle central, ce qu'on va voir tout de suite. Je passe en effet à mon premier point. une nature intégrée au cadre pavillonnaire, la construction cinématographique d'un espace hybride. Et pour cela, je vais vous montrer deux séquences qui, à mon sens, se font écho. Chacun des deux films s'ouvre en effet quasiment sur... Donc, on parlait des déplacements, justement, Diane l'abordait ce matin. Donc, chacun des deux films s'ouvre quasiment sur l'arrivée des personnages, et donc avec lui, du spectateur, dans l'espace pavillonnaire, un espace qui est d'emblée construit comme imbriqué à la nature, mais où, justement, le type de nature représentée se pluralise et diffère aussi entre les deux films. Donc je commence par En attendant la nuit, l'extrait se situe juste après le générique, après le carton indiquant 17 ans plus tard, on suit l'arrivée de la famille Ferral en voiture dans leur nouveau lieu de vie. Alors pour le volume, j'espère que... J'ai peur que ce soit très 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 fort. Voilà. Donc on note comme d'emblée, le film construit cette banlieue résidentielle en l'intégrant à un cadre naturel très présent, à la fois montagneux mais aussi forestier. Cette banlieue, elle est à la fois isolée, ce qui est bien marqué par le passage on ne peut plus symbolique du pont, hein, là aussi seuil fictionnel assez courant, qui souligne aussi l'entrée du spectateur dans l'espace fictionnel construit par le film. Isolée donc, mais aussi située à l'orée d'une forêt, forêt plutôt luxuriante, qui est traversée par la voiture et dont le caractère relativement sauvage est aussi traduit par le son, le bruit de la faune est alors particulièrement présent. J'ai l'impression que là, c'est très très fort. Non ? Ok. C'est après la traversée de cette forêt qu'apparaît ensuite le lotissement qui est imbriqué à un cadre naturel. Les premiers pavillons se découvrent progressivement derrière les arbres, mais ce cadre qui apparaît au fur et à mesure de l'avancée dans le lotissement se rattache à une nature extrêmement maîtrisée, marquée par les hautes haies bien taillées, les pelouses très vertes, parfaitement tondues et arrosées, on le voit de façon automatique. Et cet espace, en fait, est vraiment construit par le film, parce que si la cinéaste prend soin de ne jamais donner d'indications topologiques précises, le film est en fait tourné dans le Doubs, et plus précisément dans un lotissement, le domaine du château, situé à Defset, c'est le périurbain de Besançon, mais la forêt et le pont sont deux autres endroits situés ailleurs dans la région, et ils ne sont pas du tout à proximité, ni l'un de l'autre, ni de ce lotissement. Et donc c'est vraiment un choix de la cinéaste que de construire cette banlieue pavillonnaire comme à la fois isolée par un pont et située en lisière d'une forêt luxuriante. Au niveau de l'organisation des plans, on note aussi comme on adopte d'abord un point de vue extérieur, ce qui permet justement d'insister en suivant la voiture sur ce cadre naturel extrêmement présent, hein, les montagnes puis la forêt. Puis on passe majoritairement ensuite en caméra subjective, de sorte que c'est aux côtés de la famille qu'on découvre là ce lotissement et par là même cette deuxième nature beaucoup plus anthropisée, avant de terminer à nouveau à l'extérieur, avec ce plan large, assez long, sur la famille dans leur voiture. Et plan qui est assez comique et qui construit déjà, en fait, cette idée d'une sécurité du cocon familial, matérialisée ici par l'espace clos du véhicule, qui serait opposé à un environnement extérieur, le lotissement, qui lui incarne potentiellement une menace et dans lequel il va falloir se fondre. Il s'agit de faire comme tout le monde pour être tranquille, dit le père. Et on note comme d'entrée de jeu, le monde pavillonnaire est représenté, bon, de façon assez convenue, comme l'incarnation même de la norme. Enfin, la forêt, si elle est en partie une menace parce qu'elle appartient à cet extérieur, situé hors du cocon familial, elle apparaît d'emblée comme un possible refuge. On nous explique que c'est cette présence des arbres qui, en tant qu'ils font de l'ombre, ont présidé au choix de ce nouveau lieu de vie. Et dans un environnement pavillonnaire que le film construit très largement comme gorgé de lumière, la forêt offre, elle, un espace à l'abri du soleil, mais aussi des regards. Et elle est ce lieu refuge où l'on peut peut-être même aussi échapper à la norme. J'y reviendrai. Alors je passe à la deuxième séquence qui est le pendant, qui est le générique qui ouvre, lui, la vie domestique. Donc on suit Juliette et son mari qui rentrent chez eux après un dîner, qui est le pré-générique du film, durant lequel le mari n'a que très peu réagi aux propos particulièrement misogynes de leur hôte, d'où, on va le voir, la tension palpable au sein du couple. Et cette séquence de quasi-ouverture construit là encore un espace pavillonnaire d'emblée associé à la nature, avec des représentations et des procédés communs avec l'extrait précédent, mais aussi, on va le voir, de fortes différences. Donc il y a déjà une différence majeure entre les deux extraits, c'est que celui-ci est nocturne, quand le précédent se déroulait en plein soleil. Et voilà. Et il y a la musique électronique qui crée une atmosphère à la fois un peu flottante, mais plutôt intrigante dans En attendant la nuit, et répond ici une musique bien plus mélancolique au piano, un peu dans la lignée de Philippe Glass, de sorte que l'entrée dans ce lotissement se fait sous un jour a priori beaucoup plus triste ou du moins assez désabusé. On retrouve toutefois une même structure, le film débute en nous faisant pénétrer avec les personnages dans l'espace pavillonnaire, et ce par le biais de la voiture. On retrouve également cette alternance entre l'adoption d'un point de vue extérieur avant l'entrée dans le pavillonnaire stricto sensu, point de vue extérieur qui permet de montrer avant l'espace pavillonnaire la présence d'un environnement naturel, mais sous une forme bien différente des montagnes et de la forêt de l'extrait précédent. Une nature là signalée plutôt que montrée, c'est le panneau, le parc de Cassan, que longe la voiture, mais sur lequel la caméra s'attarde plus longuement après que la voiture l'ait dépassée, tout comme Céline Rouzet le faisait pour filmer la forêt en attendant la nuit. Donc une nature qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sait déjà extrêmement aménagée, artificialisée. Puis comme dans l'extrait précédent, le passage à la caméra subjective fait que l'on pénètre dans le lotissement aux côtés du couple, notamment de Juliette. Et là encore, le lotissement se devine, moins parce qu'il est caché par les arbres que du fait de la nuit, donc seul l'éclairage des phares et des lampadaires nous laissent entrevoir le lotissement, mais apparaissent déjà, là aussi, les haies bien taillées, les pelouses soigneusement tendues, et surtout les parcelles extrêmement nettes de chaque maison. Là aussi, le film construit un espace pleinement fictif. Si le parc de Cassan existe, il est situé dans le Val d'Oise, au nord-ouest de Paris. Le lotissement dans lequel rentre ici le couple est en fait lui situé bien plus loin, dans l'est de Paris, en Seine-et-Marne. Il s'agit de la résidence du parc à Lézigny, bien connue des chercheurs sur le pavillonnaire, car c'est l'une des premières banlieues pavillonnaires construites en France à la fin des années 60 par l'entrepreneur américain Levitt. Donc cet espace pavillonnaire situé à l'orée du parc de Cassan, c'est là encore le film vraiment qui le construit. Et enfin, cette nature qui d'emblée est associée à l'espace pavillonnaire, elle est aussi ambiguë. C'est le heurt avec cette jeune fille que le mari manque d'écraser en arrivant. Jeune fille dont on voit à travers le regard d'Emmanuel De Vos qu'elle se réfugie ensuite dans les arbres et donc on suppose dans le parc dont on vient de voir le panneau. Cela aura en fait des répercussions majeures. La petite fille de 2 ans dont on signale la disparition le lendemain matin, on découvrira son corps à la fin de l'après-midi dans l'étang du parc et on apprendra lors du dîner qui clôt le film que c'est sa mère qui l'a étouffée puis qui est allé noyer le corps dans l'étang du parc. Et c'est à ce moment-là que le personnage de Juliette, apprenant cela, se persuade que c'est cette même jeune fille qu'elle et son mari ont failli écraser la veille au soir, point que le film laisse par ailleurs en suspens. Pour ma part, je pensais que c'était une évidence, puis ensuite, en ralentissant sur la jeune fille, en fait, finalement, ça colle peut-être pas tout à fait, et justement, je trouve ça intéressant que le film ne résolve pas la question. Donc je passe maintenant à ma deuxième partie, dans laquelle je vais plus me concentrer sur la vie domestique, une nature centrale mais réduite à un paysage figé. La séquence d'ouverture fait donc, on l'a dit, du parc de Cassan l'entrée qui précède l'espace pavillonnaire. Mais Isabelle Chaïka organise vraiment ce parc comme l'espace pivot du film. Et pour cela, elle passe par une suite de quelques plans fixes du parc, plans qui forment de courtes séquences qui scandent le film et reviennent comme un leitmotiv tout en marquant par le changement de lumière l'écoulement de la journée. Donc je vous en montre la première occurrence quelques minutes après la séquence qu'on vient de voir pour que vous ayez une idée de l'effet produit. Du coup, il faudrait... Pardon, merci beaucoup. Voilà, donc on voit que c'est vraiment une nature d'agrément, hein. C'est un cadre naturel qui est ressaisi par des images elles-mêmes en fait assez convenues et qui vise plutôt à l'esthétisation du paysage représenté. Et mis à part la balançoire du début, on note une précédence des plans larges, toujours à une certaine distance des éléments représentés, où la nature est aussi présente par le son, hein, notamment là le chant des différents oiseaux, même le bruit de quelques batraciens. On remarque surtout qu'il s'agit d'espaces vides, de toute présence humaine, avec une insistance qui est portée sur l'étang et l'air de jeu pour en ce qu'on retrouve en fait à chaque séquence du parc, ce qu'on peut voir là dans les deux photogrammes du haut comme du bas, donc c'est à différents moments de séquence du parc. Ces séquences sont aussi les seules où se fait entendre la musique du générique, de sorte que, au fur et à mesure, par le retour des images et de cette bande-son, ce jardin public devient le lieu d'expression de la charge mélancolique du film, qui traduit notamment l'état de son personnage principal, Juliette, dont on sent bien pendant tout le film qu'elle résiste tant bien que mal à cette vie pavillonnaire dont la sérénité, la joliesse prétendue l'étouffe. Mais ce jardin public apparaît aussi comme un lieu de potentiel danger. Du fait de cette insistance portée sur l'étang qui revient autant que l'air de jeu vide dans toutes les séquences de plans du parc, ce qui fait signe d'emblée vers la disparition de la petite fille, qui a ce premier point, et surtout l'étang, en fait, le film lui confère une force d'attraction un peu trouble, parce qu'il est filmé longuement, d'abord par la caméra en vision subjective, lorsqu'il est longé par Juliette dans le parc, c'est ce qu'on voit sur les photogrammes du haut, et c'est cette même attraction qui est à l'œuvre du côté des enfants. Lorsqu'ils reviennent de l'aire de jeu en fin d'après-midi, ils se précipitent pour voir les pompiers entrer dans l'étang sans comprendre ce qu'ils y font. Ce sont là les deux photogrammes du dessous, avant que leur mère respective, inquiète, ne leur ordonne de rentrer immédiatement à la maison. Et en cela, donc, le parc dans la vie domestique, qui donc, on l'a dit, est très largement désert, hein. Les enfants n'y sont montrés en train de jouer qu'à une seule reprise à la sortie de l'école, et encore seulement dans les strictes limites de l'aire de jeu. De ce point de vue, donc, le parc est représenté de la même manière que l'autre espace naturel investi par le film, le jardin pavillonnaire. Le jardin constitue, lui, on l'a dit, l'un des éléments prisés par les ménages avec enfants qui s'installent dans le pavillonnaire. Et c'est d'ailleurs dans le film la première raison avancée par Juliette au personnage interprété par Julie Ferrier pour lui expliquer, en plus du métier du mari, pourquoi elle a emménagé récemment dans cette banlieue. On a un jardin, dit-elle, pour les enfants, c'est mieux. Or, le film nous montre là encore, bon, et peut-être de façon un peu caricaturale, mais qui a le mérite de la lisibilité, combien ce rapport à la nature est en fait aseptisé, même vis-à-vis du jardin. C'est le dernier extrait que je montrerai de ce film, qui suit Julie Ferrier rentrée chez elle avec son fils, qui exceptionnellement n'a pas école, car la maîtresse est absente. Donc, ainsi, même le jardin, pourtant très domestiqué, représente une source de troubles potentiels à la norme pavillonnaire. La nature, c'est d'abord le risque de la saleté. Là où, de façon en fait assez ironique pendant toute cette séquence, on voit qu'il y a deux grandes plantes vertes qui sont disposées à l'intérieur du pavillon, mais dans des pots bien préservés. Et surtout, on voit que sur ce dernier plan, donc le dessin animé, alors est-ce qu'on peut juste éteindre juste pour qu'on... on voit que donc passe en fait un dessin animé Azur et Asmar de Michel Oslo qui affiche une nature luxuriante à l'écran. Là, on va peut-être un peu moins avec le reflet. La nature, on la retrouve aussi, sous un jour plus aménagé, mais quand même à travers la fenêtre. Mais on voit bien donc que cette nature, à chaque fois, est biaisée. On la refuse véritablement, de façon très nette, que l'enfant y évolue. Et la mère va jusqu'à lui enlever de façon assez brusque, à deux reprises, la main de la porte. Et cela apparaît donc d'autant plus ironique au spectateur que lorsque le personnage de Julie Ferrier reçoit ensuite ses amis pour prendre le café et que l'une d'entre elles admire leur baie vitrée qui donne sur le jardin, elle lui répondra « On voulait avoir l'impression de vivre un peu dans la nature ». Donc on retrouve en fait ce même rapport hypocrite au jardin pavillonnaire dans En attendant la nuit, au cours d'une scène de barbecue, donc on le voit là avec ce photogramme, scène particulièrement solaire, où le bleu de la piscine contraste avec les différents verts et de la pelouse et des arbres alentour. Donc Philémon va faire une blague à Camille en remarquant que leur pelouse est si verte qu'elle semble irréelle, et la jeune fille explique alors que c'est bien normal dans la mesure où il est interdit de marcher dessus, sauf quand il y a des invités. En attendant la nuit, diffère toutefois du film d'Isabelle Tchaïka, dans la mesure où, aux côtés du jardin pavillonnaire, se déploie la forêt. Et si l'environnement naturel apparaît là aussi comme un espace de potentiel danger, le film de Céline Rouzet tire davantage cette nature du côté d'un levier possible d'émancipation, ce que je vais donc voir dans une dernière partie. Alors, le film construit vraiment la forêt à la fois comme un espace refuge, donc du fait de la présence des arbres, évidemment, qui protègent Philémon du soleil. Mais cet espace refuge est ouvert, à la différence de l'espace clos du pavillon familial, se révèle surtout être le lieu de l'interaction possible avec les jeunes de son âge, poussant le jeune homme à s'affranchir des règles qui ont présidé jusque-là à sa jeunesse pour entrer enfin pleinement, et peut-être un peu tardivement, dans l'adolescence. Donc alors que Philémon, on le comprend, a toujours eu interdiction de quitter la maison en plein jour, donc là c'est les deux photogrammes du haut, en voyant les jeunes donc amis passer devant sa fenêtre pour se rendre à la rivière, et on note le contraste entre l'extérieur très lumineux et l'intérieur extrêmement sombre de la chambre de Philémon, le jeune homme décide de braver l'interdit et donc de se rendre lui aussi à la rivière. Il réussit notamment à se faire accepter des autres en rapportant des bières. Donc cette intégration en fait assez aisée le réjouit, comme on le voit les deux photogrammes de droite. Mais du bas, et donc en bas à droite. Mais c'est aussi cette forêt, en tant qu'elle se révèle un lieu d'ensauvagement, qu'elle constitue aussi dans le film un levier d'émancipation. Donc on l'a dit, la mère de Philémon le nourrit de son sang par perfusion, s'est montrée très tôt dans le film, dans une scène assez comique, où l'acte en fait est totalement normalisé en étant intégré au fait de regarder la télévision en famille. Et on mesure à la faveur de cette scène, et c'est le photogramme du bas, combien la transfusion sanguine fait vraiment figure de cordon ombilical maintenu entre la mère et le fils. Et donc, Le film va en fait faire de la forêt le lieu où le jeune homme va par deux fois goûter du sang humain, et donc c'est là que le jeune homme va littéralement, en se passant de transfusion, couper le cordon. Et cela va toujours avoir lieu au même endroit, c'est-à-dire en bordure de la rivière, et on note là un écho avec l'étang de la vie domestique, la proximité à l'eau pour figurer une sauvagerie qui serait moins inhérente à la nature que déclenchée, suscitée, par la proximité à l'élément naturel. Et donc, je vais finir sur cette idée en m'arrêtant rapidement en fait, sur ces deux séquences qui, justement, proposent des procédés différents dans l'évolution de cet ensauvagement. La première séquence a lieu en plein jour, lorsque Philémon est à la rivière avec les autres jeunes de l'incommune. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve cette succession de plans fixes de la nature vue dans la vie domestique, mais pour filmer donc l'environnement naturel, avec là un effet totalement différent. Le fait en fait qu'après cette première scène de contact buccal avec le sang, le fait de faire ces inserts sur le paysage de montagne et sur la forêt avant de revenir à Philémon, avec cette même bande son de guitare électrique un peu saturée, va transformer en fait le cadre naturel en ces éléments, donc là, d'une nature qui est très peu anthropisée, très sauvage, ont des sortes d'adjuvants, en fait, de cette métamorphose de Philémon. Et on peut même voir que ça les transforme en éléments déclencheurs de cette transformation du jeune homme, un peu comme des déités mythiques qui présideraient, comme ça, au déroulé de ce drame. Et, en l'occurrence, donc, de la progressive métamorphose du jeune homme à partir du moment où le sang devient pour lui quelque chose de désirable et qui, par là même, libère chez lui une puissance jusqu'alors inconnue. Donc, de sorte que Philémon commence à devenir autre, aussi aux yeux de sa propre famille, et c'est ce que souligne donc ce deuxième, et qui sera mon dernier extrait, qui est toujours situé au même endroit, près de la rivière, mais la nuit, alors que la famille pique-nique, en fait le père se rend compte qu'il a oublié le système de perfusion pour son fils, ce qui conduit le jeune homme à adopter une autre technique. Et donc là, donc on peut noter tout d'abord avec les effets de zoom sur les visages des membres de la famille, leur stupéfaction, mais aussi leur peur devant cette transformation de Philémon, cette part de sauvagerie quasi animale qui est dénoncée explicitement par la mère, qui est soulignée par les aboiements apeurés du chien, mais aussi par le regard presque haineux tout d'un coup du jeune homme. Mais surtout, on retrouve cette musique, les guitares électriques saturées qui reviennent. Et là, la grande différence, c'est qu'elles vont se prolonger en fait dans l'espace pavillonnaire à la lumière éclatante du soleil, de sorte que on remarque que les plans de là du pavillonnaire se concentrent surtout sur la nature en fait extrêmement maîtrisée du pavillonnaire. Et donc, c'est comme si du coup, la sauvagerie de la forêt instillait, via cette transformation, instillait cette violence à l'intérieur même du lotissement. Et donc ces espaces apparemment soignés, sereins, tranquilles, semblent là vaciller, se démanteler, sous le coup d'une violence qui serait prête à jaillir, violence du vampire en devenir, mais on le comprend, violence qui vient s'opposer et rendre aussi visible la violence plus sourde constituée par la norme et les conventions sociales qui y règnent. Cette intrusion de la violence, mais aussi du désir dans la sphère du lotissement, se déploie à la fin du film. Alors que le premier baiser, la première étreinte entre Philémon et Camille a lieu dans la forêt, c'est dans l'espace du lotissement, donc c'est les deux photogrammes du haut, mais c'est dans l'espace du lotissement en bas que Philémon mord la jeune femme à sa demande, hein, morsure qui déclenchera la violence du reste des habitants, et en retour, celle de Philémon, comme on le voit dans ces deux derniers photogrammes, jusqu'à une issue fatale pour le jeune homme. Donc comme on le voit là, donc là c'est vraiment la sauvagerie qui du coup est déplacée et explose à l'intérieur du lotissement. Voilà, on peut. Merci beaucoup. Donc on a vu comment ces deux films accordent à la nature une place centrale dans l'espace pavillonnaire représenté. Si les deux font du jardin individuel un espace profondément artificiel, car en fait purement décoratif, le parc de Cassan de la vie domestique s'oppose à première vue à la forêt de En attendant la nuit, à une nature très domestiquée, répond à un environnement beaucoup plus sauvage, hein, cette forêt profonde surplombée par les montagnes. Et pourtant, Isabelle Chaïka comme Céline Rouzet fondent ces environnements naturels des espaces de surgissement de la violence, une violence potentiellement émancipatrice dans sa force de transgression, mais aussi potentiellement meurtrière. Cette sauvagerie donc vient susciter ou révéler la nature pavillonnaire apparaît surtout comme la conséquence, le résultat ou la réponse à la coercition normative à l'œuvre dans ce type d'espace, coercition normative que chacun des deux films, par ce biais, dénonce. Je vous remercie.
J'ai fait la grave erreur de ne pas prendre l'heure, de ne pas me regarder l'heure, mais je crois qu'on a un bon quart d'heure, hein, de discussion. Bah, merci à vous deux pour encore. encore une fois une passionnante communication que j'avais déjà signalée tout à l'heure, mais celle d'Arthur qui l'était tout autant, avec cette focalisation sur ces deux films qui m'a paru effectivement très probante. Et ça nous a permis, en plus, de manière tout à fait variée, complémentaire, d'avoir deux figures du périurbain et donc de la banlieue, avec certes des déclinaisons, mais d'un côté cette cité qui finalement avait cette nature non domestiquée, et puis ce parc pavillonnaire, cet air pavillonnaire complètement muselé en quelque sorte, et cette violence qui aussi dans la vie domestiquée d'ailleurs va apparaître d'une autre manière, beaucoup moins physique. Peut-être que je vais commencer, comme j'aime bien le faire, comme en cours ou comme en séance, par donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions après ces deux interventions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne d'emblée sur certains aspects?
Ok, merci beaucoup. Du coup, bah, merci pour ces deux présentations. J'avais une question pour Samuel, même si elle rejoint un peu ce qui avait été dit par Arthur, parce que je voulais parler de... justement, quand on parlait du fait que les espaces sont créés par le procédé filmique, et en même temps des a priori, des images qu'on a quand on parle de la cité. Moi, quand on me parle de cité, je m'imagine un espace enclavé, surtout entouré d'autoroutes, souvent. Ah, pardon. Qui est entouré d'autoroutes. Et là, il est plutôt bordé par une forêt. Et donc, je me demandais, est-ce que c'est une emphase, cette forêt, qui est voulue par le cinéaste pour ce message de libération, etc. Ou est-ce que c'est juste un... Comment dire? Pas juste une opportunité, mais est-ce que c'est dû surtout à la topographie des bosquets, en fait?
Alors, je pense... Oula. Pardon. Je pense que ça, c'est d'abord la topographie des bosquets. Lui, il a grandi dans cette cité, et puis cette cité, elle est un peu comme elle est. Et par contre, je pense que c'est une question de quel rapport au lieu, lui, là, en tant que enfant, puis aussi en tant que cinéaste, et que tous ceux qui ont filmé au bosquet n'ont pas donné cette même importance au bois qui est à côté. Et lui, bon, il a l'air quand même d'avoir un rapport à la nature qui est assez important. Je pense que c'est quelque chose. Il aime beaucoup filmer les arbres. À chaque fois qu'il est pris en photo ces derniers temps, c'est toujours dans des forêts. L'endroit où il travaille à Montreuil, c'est un endroit qui a une espèce de petit jardin aussi à l'intérieur. Et puis, il est originaire d'une famille en Algérie qui est une famille rurale, et c'est là qu'il a aussi tourné un film là-bas. Donc je pense que c'est aussi... c'est ce qu'il avait... c'est là où c'est ce qu'il connaît, et puis c'est ce qu'il aime. Voilà, je pense que c'est davantage ça. Mais on a une vision quand même des banlieues. Alors, je ne suis pas spécialiste de toutes les banlieues non plus, mais et donc il y a des banlieues qui sont entourées par les autoroutes. Il y a des banlieues aussi. Il y a des cités en ville, mais les cités, c'est quand même des espaces qui ont été construits par les urbanistes comme des espaces assez verts et qui ont perdu un peu cette image au fur et à mesure du temps. Voilà. Mais...
Bon, en même temps, c'est pas évidemment le premier film tourné dans cette cité. Il y a ce choix volontairement de la placer au cœur du film. Même j'ai trouvé que c'était intéressant dans les analyses plan par plan, qui parfois auraient pu nous échapper, d'avoir éventuellement beaucoup de contre-plongées pour avoir uniquement le haut des arbres au-dessus de son visage, et la composition des plans et son insertion dans les plans vraiment avec une insistance terrible. Et puis ce moment de sa partie de campagne en quelque sorte, sa partie de pêche, qui est vraiment centrale au sein de ce film, et qui, me semble-t-il, alors peut-être ma mémoire me fait un peu défaut pour Le Gang du Bois du Temple, mais c'était un aspect qu'on va peut-être un peu perdre. On parlait tout à l'heure du changement entre Les Misérables et Bâtiment 5. Je me demande s'il n'y a pas une évolution peut-être un peu pessimiste et similaire entre, dans ces cas-là, ce premier et ce dernier film, finalement. Il a fait beaucoup d'autres choses et très différentes entre, mais peut-être un mouvement quand même un peu vers cet aspect noir. Pardon, du coup, excusez-moi.
Oui, déjà, je pense qu'il était quand même attaché au lieu. Et c'est autant il a une vision un petit peu, je pense, un peu pirate du temps, où il conjugue différents éléments qui ne sont qui ne bissent pas, on va dire, à une cohérence historique stricte. Autant, je pense que dans Wesh Wesh, la question du lieu et du territoire dans lequel il tourne est extrêmement importante. Et c'est pas quelque chose qu'il peut faire dans le gang des Bois du Temple, vu que la cité du Bois du Temple est détruite elle aussi. Et que, il la déplace à Bordeaux. Et donc, il filme une autre idée. Mais je pense qu'il y a une vision des Bosquets, souvent, qui est une vision qui est un peu emblématique. Dans le sens où ça a été une vision qui a été, une cité qui a été au cœur de, à la fois, des révoltes de 2005 et, de celles plus récentes de 2023. Pas les Bosquets elles-mêmes, mais, enfin, dans les territoires proches. Et qui a été détruite, on peut penser, à la fois pour des questions qui sont des questions sanitaires, mais aussi peut-être un peu comme, une punition, Et du coup, la cité des Bosquets au cinéma a été faite comme cet emblème, mais aussi une image de toutes les banlieues, ce qui n'est pas, je pense, le cas dans Wesh Wesh en particulier.
Merci. Pardon.
Oui, je n'ai pas eu la chance d'assister malheureusement à la matinée, à la façon dont les termes ont été proposés, mais je voulais peut-être vous faire réagir sur une impression de vision... d'intervention peut-être pas complémentaire, mais je trouvais complètement antithétique sur la notion de banlieue, dans la mesure où la première intervention vous fondait sur un lieu dit existant avec cette hybridation réelle, cette présence de la campagne, etc., ancienne. Et puis dans le cas de la deuxième intervention, dans un espace complètement fantasmé, complètement réinventé, complètement faux, qui est plus là pour accueillir une dialectique nature-culture, qui pourrait être n'importe où. J'ai l'impression, j'ai pas vu le film, donc j'ai pas l'impression qu'il y a un rapport centre-périphérie qui pourrait rendre palpable la notion de banlieue. J'ai plutôt l'impression d'un lieu complètement imaginaire qui est là pour accueillir une idée, quoi. Je voulais vous faire réagir là-dessus.
Alors effectivement, c'est vrai que le sous-titre de l'après-midi, c'est banlieue, mais il me semble que pour moi, le pavillonnaire, il est d'abord associé en fait au périurbain. Enfin, en tout cas, quand on pense périurbain maintenant en France, on pense pavillonnaire, centres commerciaux. En tout cas, dans l'image très stigmatisée médiatiquement qui a été donnée de la France moche, c'est vraiment le périurbain, le pavillonnaire, et la banlieue, c'est la cité. Je pense qu'il y a effectivement cette volonté dans les deux cas, dans les deux films, de ne pas situer, de ne pas localiser cet espace, aussi pour décoller vers la fiction et avoir un côté décoller vers la fiction plutôt fantastique pour En attendant la nuit, et je pense avoir un côté emblématique pour La vie domestique. Voilà. Mais alors, je tiens à souligner que alors que pour En attendant la nuit, je trouve ça très clair, les documents que j'ai trouvés pour Isabelle Chacun ne le mentionnaient pas. Étant donné qu'il y a du pavillonnaire à côté du parc de Cassan et qu'il y a un parc à côté de Lézigny, je ne sais pas s'il y a eu des raisons autres que des raisons d'autorisation de tournage qui ont fait que la cinéaste est allée à Lézigny et a voulu, c'est là où je ne sais pas pourquoi, brandir ce parc de Cassan qui revient aussi dans sa nomination plusieurs fois dans le film. Donc là, je n'ai pas la clé de pourquoi le parc de Cassan et pas le parc à côté de Lézigny. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté, oui, de ne pas l'ancrer du tout, mais là, plus par volonté d'avoir un discours emblématique sur le pavillonnaire.
Bonjour, merci à tous les deux. Moi, j'ai à la fois des questions et des remarques. D'abord, ce qui me paraît très intéressant, c'est que tous les deux, vos communications doivent beaucoup à Éric Rohmer. Et que la banlieue, en tout cas le périurbain, dans le cinéma français d'aujourd'hui, doit beaucoup à Éric Rohmer, à la fois comme lieu de libération et comme lieu d'aliénation, puisqu'en fait, chez Rohmer, c'est un peu les deux. Et ce que j'aurais aimé, c'est, pour les deux d'ailleurs, que vous développiez un tout petit peu sur la question des personnages féminins. Parce que c'est sur les personnages féminins, chez Rohmer, mais aussi au moins dans les films Arthur que vous aviez étudié, que cette banlieue exerce à la fois sa fascination et son pouvoir de nuisance, il me semble. Et j'aimerais bien juste que vous nous en disiez un petit mot. Et puis, il y a ce personnage féminin qui est vraiment intéressant.
Mais aussi Dariel Dombal. Enfin, c'est pas tout le même rapport.
Oui,
mais...
c'est pas le même rapport. non, mais c'est dans Wesh Wesh, il y a cette institutrice. Et la manière de faire rentrer ce personnage dans les bosquets, ça me paraît mériter un petit mot.
Ne vous battez pas. Du coup, j'ai pas trop compris si la question c'était sur du coup les personnages féminins chez Romère ou chez Amors Aimèches.
Chez
Amors Aimèches, c'est vrai qu'il y a c'est quand même un film qui suit des hommes, mais qui suit un homme qui rencontre des femmes et qui du coup passe entre les entre différents espaces de sociabilité. Il y a quand même une scène dans Amours Aimèches où ce sont deux femmes qui parlent. Il y a deux scènes où ce sont des femmes qui parlent ensemble et qui parlent plus ou moins de Kamel, mais voilà. Concernant cette institutrice. C'est une institutrice qui est présentée comme une institutrice engagée communiste et qui en même temps déçoit un peu Kamel en lui proposant un mariage blanc comme ça et il se sent un peu insulté et c'est la seule qui finalement accède à cet endroit du bois, mais elle le fait en étant guidée par des enfants. Et donc c'est ces enfants qui, toujours dans le film, amènent les personnages d'un endroit à l'autre. Et c'est dans cet espace de parc qu'a lieu une espèce de moment déjà qui... de couple où ce couple peut se réconcilier et d'ailleurs regarder dans le même sens, qui est un peu une autre figure un peu d'Ozu avec son Bob et de ces deux personnages qui regardent dans le même sens. Après, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire sur ce personnage.
Par rapport à... je pense qu'il y a trois points, si j'essaie d'aller vite. Tout d'abord, c'est un point en fait auquel j'ai réfléchi ce matin, mais je m'en étais pas rendu compte. Par rapport à tous les autres films que j'avais cités avant du corpus, qui étaient tous faits par des hommes, où la nature avait une place assez peu importante dans le film, ces deux films-là sont tous les deux faits par des femmes. Donc, j'ai pas le temps là de postuler qu'est-ce que ça peut nous dire aussi vis-à-vis des perspectives d'écoféminisme. En tout cas, ces deux cinéastes féminines qui décident et qui vraiment le décide, c'est revendiqué, d'accorder à la nature pavillonnaire une place centrale dans leur film. Pour les femmes dans les deux films, alors là où je serais, Françoise, je nuancerais, mais c'est pour En attendant la nuit. Je sais que c'est... Alors, les femmes ont leur place, mais le centre, c'est vraiment le personnage de Philémon. Et bon, la cinéaste a expliqué, elle a vraiment voulu faire ce film en rapport, en réaction à... une douleur biographique, c'est l'histoire de son propre frère qui a été atteint d'un handicap et qui a vécu très tragiquement le refus des autres d'accepter ce propre handicap. Et elle est passée par le film de vampire pour incarner ça et par le pavillonnaire pour incarner cette norme. Mais quand même, les personnages féminins apparaissent dans des rapports différents à cet environnement pavillonnaire. Il y a vraiment la mère Courage qui est Élodie Pouchaise et qui commence le film en étant exsangue de donner autant son sang et qui, en fait, paradoxalement, quand ça se passe bien, va trouver une forme d'autonomie parce qu'un travail est de régénération parce qu'elle arrête de donner son sang pendant tout le passage où elle peut voler des poches de sang pour son fils. Mais l'autre figure féminine, enfin, il y en a deux autres, il y a Camille qui, elle, est liée à cette norme dont, en fait, elle n'arrive pas vraiment à s'extirper. Et surtout, il y a le personnage de la petite sœur, qui est donc en fait un écho de la cinéaste, qui là est en fait le personnage le plus intéressant, je trouve, du film, très espiègle, et qui est dans des rapports de rejet et d'amour vis-à-vis de son frère. Mais donc, il y a une vraie place accordée à ces personnages féminins, mais qui néanmoins, ce n'est pas le centre du film, c'est vraiment Philémon. Pour la vie domestique, bon là, évidemment, mais étant donné le temps et le sujet, je ne pouvais pas le centrer là-dessus, mais le film est centré sur ces personnages de femmes. Ce qui est intéressant, et je suis désolé parce que là, je n'ai pas pu le montrer, c'est qu'en fait, alors qu'on pourrait penser que c'est quand même très caricatural, il n'y a pas que le personnage de Juliette qui a plus de complexité dans le film. Chacune des trois autres qui, en apparence, pourrait apparaître quand même très voilà, dans l'idéal de la norme de la mère pavillonnaire qui est très bien dans, dans cet environnement. En fait, il y a à chaque fois des choses qui coincent, notamment dans leur rapport conjugaux, dans le rapport aux enfants. Et donc, le film prend soin de montrer que si elles y sont, il n'y a pas d'absence de questionnement, il n'y a pas d'absence de questionnement critique vis-à-vis de ce qu'on fait là. En tout cas, donc, il prend soin de, voilà, de ne, effectivement, d'avoir ce rapport ambigu des personnages féminins dans cet espace qui leur convient, mais qui les enferme, mais dont elles ne veulent pas forcément toutes s'extirper parce qu'elles y trouvent aussi d'autres éléments plus positifs. Quoi. Voilà.
Merci. Alors, comme dirait Anna, j'ai deux petites questions. Samuel, tu réponds au choix. Je vais en fait continuer, prolonger la question de Françoise. Peut-être, comme c'était la fin de la communication, tu l'as peut-être dit très rapidement et je n'ai pas eu l'occasion de bien le saisir, mais est-ce que tu proposais, à vos souhaits, est-ce que tu proposais en fait une opposition dans la vision politique entre le film de Romer et donc Wesh Wesh, dans ce cas-là tu peux la développer. Et je me permets donc une autre possibilité de réponse par rapport à peut-être ces habitants révélateurs que sont donc les enfants. Est-ce que ce rôle de passeur que tu as mis en avant, c'est également, ça fait partie d'une spécificité de Wesh Wesh par rapport au rôle, peut-être à des fonctions types des enfants dans l'espace de la cité, ou est-ce que ça vient en fait reconduire finalement quelque chose d'assez conforme, enfin, autrement dit, est-ce que les enfants de Wesh Wesh ont une attribution donc fonctionnelle particulière ou non?
Du coup, je réponds aux deux questions. Ok. Pour le rapport avec Romer, alors, je ne sais pas s'il y a une opposition stricte qui se voit dans leur cinéma. Bon, je pense qu'ils n'ont pas exactement les mêmes positionnements politiques. Oui, j'ai quand même l'impression que dans l'arbre, pour parler de l'arbre du maire et la médiathèque, il y a quand même un rapport à la nature qui tend à la collection et à l'herbier. Il présente plein de différents rapports à la nature en essayant de voir en quoi est-ce que l'écologie serait une nouvelle forme de conservatisme. Mais j'ai quand même l'impression que plus que dans d'autres de ces films, une espèce de tentation du figement et de réduire la nature à des gros plans sur des plantes, sur des éléments du jardin, et de faire de la nature un peu un jardin bien rangé, que ça a l'air d'être son horizon périurbain. Je pense que c'est en tout cas en ça qu'il s'oppose à Mirza Image, qui essaie toujours d'ouvrir des espaces aux autres qui lui sont proches mais qui sont aussi très différents d'un point de vue des représentations.
J'étais juste curieuse, peut-être du coup pour donner une chance à Arthur de parler de ce corpus de films qui est constitué l'objet de sa communication au départ, d'essayer de resituer un peu ton propos dans une généalogie plus vaste. Et je me demandais par exemple où et avec quel cinéaste elle commencerait. Est-ce que ce serait avec Tati? Et aussi, je trouvais intéressante la question de la présence des femmes, parce que même si effectivement les deux communications sont sur des objets très différents, je trouve que la quasi-disparition, ou en tout cas le fait que les personnages féminins sont relégués à des positions très subalternes dans le récit du gang des bois du temple chez Rabbi Meirzaïmej, c'est très décevant. Mais donc ça pose vraiment une question. Et par ailleurs, j'ai l'impression que un des films dont il était question, et je les ai pas vus en fait, je t'avoue, ni l'un ni l'autre, au moins l'un des deux est vraiment clairement un film de genre. Et il y a quand même toute une tradition, je pense, dans le, peut-être disons si c'est un genre, le film pavillonnaire, ou en tout cas le film domestique, qui montre que l'espace de la maison est un lieu de mort pour les femmes. Et je pense qu'on pourrait refaire toute une histoire du cinéma d'horreur en montrant comment les femmes meurent dans les maisons. Donc peut-être y aurait cet aspect-là. Et enfin, pardon, j'ajoute un peu une dimension, mais sur cette même question de un peu réinscrire la communication dans une autre généalogie, je me demandais aussi pourquoi, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas, au-delà de Romère, une filiation du côté du documentaire, depuis Piala jusqu'à aujourd'hui, Alice Diop, quand elle fait sa traversée du RERB. Voilà. Nous.
Alors pour le... Donc je vais essayer de répondre aux trois éléments rapidement. Ouais. Alors par rapport à tous les autres films, bon, je précise quand même que même si Carole me prête cette immense culture sur le corpus, en fait je n'avais proposé que ces films là plus les deux autres, mais en tout cas, alors moi c'est un travail que j'ai pas pu justement assez développer dans ma thèse, que j'en ai pas eu le temps et je n'en avais plus la place non plus, mais pour moi il y a deux, c'est-à-dire il y a à la fois Tati évidemment, et c'est aussi évoqué dans certains livres ancré dans le pavillonnaire, il y a notamment dans chez Fanny Taliandier, qui est un texte qui parle du lotissement grand siècle, la résidence du parc en fait de Lézigny. Elle a tout un passage où elle joue avec le film de Tati, mais il y a quand même effectivement, comme le disait Françoise, l'ami de mon ami, par rapport à quand même la première, ce périurbain nouveau et vraiment hybridé avec un certain type de campagne, il apparaît vraiment chez Romère. Mais pour moi, c'est plutôt à partir du quand même de Fred de Jolivet que ça s'égrène. Alors, il y en a que j'ai pas mentionné, comme je sais pas, Janice et John, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça arrive plus tôt dans le cinéma français que ça n'arrive vraiment en littérature. Bizarrement, c'est l'adaptation surtout d'Olivier Adam, Je vais bien, ne t'en fais pas, qui a connu un grand succès, qui a un peu lancé le pavillonnaire dans le cinéma français, alors que dans la littérature, pourtant Olivier Adam avait commencé assez tôt, mais il a plutôt fallu attendre les années 2010 pour que ça devienne plus davantage présent. Et donc dans cette généalogie de quelle évolution on pourrait voir, moi il me semble en tout cas que on va, mais c'est peut-être parce que c'est moi qui ai aussi envie de le lire comme ça, quand même vers plus de complexité dans la représentation du mode de vie pavillonnaire, et pas que dans un rapport totalement critique et assez stéréotypé à ces espaces, si j'essaie de voir un peu leur évolution. Et par rapport à cette question donc des femmes et aussi un peu du cinéma de genre, il y avait autre chose qui m'intéressait moi dans ces deux films que j'ai choisis, c'est que dans le corpus littéraire que j'ai eu pendant ma thèse, il y a vraiment deux enjeux sociétaux qu'on retrouve dans les romans pavillonnaires très fortement, c'est la question du rapport des femmes à la vie domestique et les adolescents. Et c'était intéressant de voir que, parce que le mode de vie pavillonnaire, du fait de la préséance du pavillon, du rapport au domestique, et parce que les périurbains, les espaces périurbains sont eux-mêmes hybrides entre la ville et la campagne, donc reflètent avec d'autant plus de force un âge d'entre deux qu'est l'adolescence, sont des espaces particulièrement prégnants pour traiter ces questions. Mais là, il me semble que, alors autant Isabelle Chaïka mentionne vraiment le film que t'évoquais ce matin de Todd Haynes, Safe, dans son idée de l'enfer de la domesticité, mais elle se revendique plutôt de Virginia Woolf, notamment elle voulait en fait adapter To the Lighthouse, et de Rachel Cusk, où là, du coup, je pense qu'il y a moins quand même l'idée d'un enfer pavillonnaire que, c'est une des parties du quotidien d'une femme qui doit organiser ces différentes sphères. Et je l'ai dit pour Céline Rouzet, le genre, elle l'intègre vraiment plutôt du côté du film de vampire, plutôt du film de monstre. Et ce qui, moi, m'avait beaucoup surpris, par exemple, elle parle pas du tout de Twilight, par exemple, ou de films comme ça, pavillonnaires, fantastiques, mais pour elle, elle se réfère plutôt à La Mouche ou Elephant Man, et c'est plutôt à Virgin Suicides qu'elle elle se réfère dans la présence de la lumière et du soleil dans le pavillonnaire représenté. Mais finalement, c'est pas par ce biais, j'ai l'impression, de la question de l'enfermement domestique qu'elle prend le genre.
Oui. Sur la question du documentaire, je ne sais pas quelles sont les références d'Amers Aymesh en termes de documentaire. Après, il est sûr qu'il a une pratique qui a été souvent rapprochée. Et d'ailleurs, il a envisagé Wesh Wesh comme une espèce de poursuite de son mémoire qui était en anthropologie urbaine et donc un peu sur les rapports... probablement son rapport à l'espace de la cité. Dans le lien avec Piala, je suis pas un spécialiste de Piala, je sais pas tellement ce que je pourrais en dire, mais c'est vrai que lui, si on essaye de lui aussi du côté des, j'ai l'impression que Piala est aussi du côté plutôt des bois, que si on cherche un peu le rapport entre les hommes et la nature, serait plutôt le bois de la maison des bois et pas tellement le jardin de Romère. Et du coup, dans ce cas-là, peut-être que si on faisait un peu, il y aurait une histoire un peu à faire de notamment des enfants, est-ce que les enfants vont dans les bois ou dans les jardins. Et donc, Amers Aymesh et Piala seraient du côté des bois et Romère ou Garel dans la Jalousie serait plutôt du côté du jardin et du parc. Et peut-être même Amaguchi aussi du... Non, c'est vraiment la forêt un peu sombre. Et je crois qu'il y avait une autre...
Je crois qu'il y en a une dernière question. Alors moi, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est juste pour rebondir sur ce que disait Alice. C'est vrai que dans les années 60, on a une femme mariée de Godard qui lit les deux, où en fait elle est donc le personnage qui est interprété par Masha Merrill est dans une résidence de luxe mais qui est tout nouvellement construite et dont elle vante les mérites sur un mode un petit peu catalogue d'agence immobilière. On est chez Godard et donc ils ont un invité chez eux et en fait on dit que cette résidence est à deux pas de la forêt de Bondy. Donc, et le lendemain matin, il fait jour et on découvre qu'en fait, ils sont situés au milieu d'un énorme chantier horrible et pas du tout dans ce garde-verdoyant qu'on a pu imaginer alors qu'on voyait que la nuit à l'extérieur. Et puis, il y a aussi de façon plus fine le bonheur de Varda, où on est entre, effectivement, alors c'est pas des pavillons, je crois que c'est plutôt des logements ouvriers, mais ils ont un petit jardin, un petit, voilà. Et puis, effectivement, les bois où ils vont pique-niquer, et où il y a à nouveau cette question de l'émancipation féminine, puisqu'il y a remplacement de la première épouse par une seconde, après suicide de la première. Bon, Varda s'est toujours défendu d'avoir fait un film féministe, mais quand même, bon, il y a une réflexion sur un potentiel enfermement féminin.
Non, écoutez, merci encore à tous les deux. Merci pour vos interventions. On a, je crois, 10 minutes à peu près, Apolline, pour une pause café. Et puis, on continue avec la dernière séance cinéma muet. Merci encore à vous. Merci.